Chapitre 11, une visite. Une tête se montra dans le noir du trou et s'éclaira vivement, frappée en plein par la lune. C'était une grosse figure, colorée avec violence et accentuée brutalement. Elle exprimait à cette heure un contentement triomphant, mêlé à une curiosité avide. Ceci au premier instant, mais bientôt elle refléta une nuance de cauteleuse inquiétude. Ce fut l'affaire d'un instant. La tête avança avec précaution hors du trou et se pencha comme on fait pour sonder le vide. Évidemment, ce premier regard voulait mesurer une vaste profondeur. Il se heurta à la dalle éclairée et l'homme devint pâle. Il releva les yeux. Il vit seulement alors qu'entre lui et la lune qui venait de l'éblouir, il y avait une fenêtre fermée par des barreaux de fer. Un blasphème sourd sortit de sa gorge. Le sang lui monta au visage. « Chien de sort » grommela-t-il. « Je croyais être en liberté et je n'ai fait que changer de cage. » Les veines de son front se câblèrent, pris qu'il était d'une colère folle. Puis la pâleur revint, plus terreuse à ses traits que le découragement affaissé. « Ni, c'est fini, » dit-il encore. « D'ici 2 heures, je n'ai pas le temps de percer l'autre muraille. » Il fit un mouvement pour se retirer. Sa face peignait l'angoisse de la bête fauve acculée. Au moment où il allait disparaître dans l'ombre du trou, l'homme sembla se raviser. Un effort brusque remit sa tête au niveau de l'ouverture en pleine lumière, et ses yeux élargis s'attachèrent fixement sur les barreaux mêmes de la lucarne. L'espoir naissait, un grand et subit espoir. Sa bouche épaisse eut comme un sourire, et des gouttes de sueur brillèrent à ses tempes. « Si c'était ici, la case de l'habit noir, » prononça-t-il tout bas, et d'une voix qui tremblait, « ce serait trop de chance. » La tête passa hors du trou, puis les épaules, péniblement, car l'homme avait une puissante carrure. Dès que les deux mains eurent touché le sol, l'homme se trouva debout. Nous eussions reconnu alors, malgré sa tête rase et la barbe touffue qui envahissait jusqu'aux yeux, Étienne Lambert, le cabaretier logeur du cul-de-sac Saint-Claude. Il portait en effet la houppelante courte, le gilet rouge et le pantalon de futaine que nous lui vîmes dans la soirée du 14 juin quand M. Lecoq vint le chercher dans son taudis. Son regard fit le tour de la cellule, le grabat où dormait André était dans le noir. Le rayon de lune qui passait au-dessus le laissait complètement invisible. « Personne, » dit Lambert. Il marcha jusqu'à la croisée, dont la baie s'ouvrait à 8 pieds du sol. Il pensait, « l'habit noir avait donné 10 traits de lime. Il y a ici 3 barreaux dans la hauteur, 2 dans la largeur. C'est juste le compte. » C'était juste le compte. 2 fois 5, 10 traits de lime. L'espoir, repoussé tout à l'heure, arrivait presque à la vraisemblance. L'espoir marche vite, en avant ou en arrière. En une seconde, le malheureux qui se noie peut espérer et désespérer 100 fois. Étienne Lambert se noyait. Il avait reçu, la veille au soir, notification du rejet de son pourvoi, et le roi n'avait pas voulu lui faire grâce. Il savait les usages. On guillotine au petit jour. Le jour est encore matinal au mois d'août, et il faut les préparatifs. L'aumônier des prisons lui avait fait une visite. Il savait les usages. Vers 2 heures après minuit, 3 heures au plus tard, le digne prêtre allait revenir. Terrible dévouement qui parle des miséricordes divines à celui qui attend le couteau impitoyable. Après le prêtre, la toilette, puis cette caresse dérisoire qui accorde à l'agonie du bien portant un blanc de poulet rôti, un verre de bon vin et même un cigare de la Havane. Je ne sais rien de plus naïvement hideux que ces petits cadeaux. Étienne Lambert se noyait. C'était un brutal coquin. Il eût étranglé 20 sauveteurs pour gagner la rive. Quand il fut sous la croisée, il ramassa ses jambes musculeuses et fit un bond de tigre pour se suspendre à l'appui et voir. Mais il était trop lourd. En prison, le jarret perd son ressort. Sa main crispée égratigna la pierre glissante et il retomba sans avoir touché l'appui. André dormait bien fort car il ne s'éveilla pas. Lambert jura et frappa du poing sa cuisse. Il chercha à tâtons. Ses yeux s'habituaient et il voyait mieux depuis qu'il était à contre-jour. Il trouva l'escabelle dont il se servit comme d'un marchepied. Ce n'était pas assez haut, il voulut sauter encore. L'escabelle se brisa, cela fit du bruit. André, réveillé en sursaut, se mit sur ses pieds en disant « Qui va là ?» Lambert se releva d'un bond et, tout étourdi qu'il était de sa chute, il se rua sur le lit, d'instinct plutôt que par réflexion, furieux et criant « Ah, tu es là, toi, tu faisais le mort !» Ses deux mains, habituées à ce jeu, allèrent droit à la gorge d'André. Il y eut une lutte rapide. André et lui roulèrent sur le carreau, puis André seul se redressa. Son pied écrasait la gorge de Lambert. Celui-ci ne fit qu'un effort pour se dégager. « Dégommé !» gronda-t-il avec une résignation aussi soudaine que l'avait été sa colère. « Après cela, ce n'est peut-être pas la case de la vie noire. »« Qui êtes-vous et que vous ai-je fait ?» demanda le jeune ciseleur. « Je suis celui qui va la danser au point du jour, » répondit le cabaretier, presque gaiement. « Petit, tu as une crâne poigne. J'étais un peu vif, c'est que je n'avais pas de temps à perdre en politesse. Tu es plus fort que moi, c'est bon. Si ça t'est égal de me lâcher, je serai sage. » André retira son pied et dit froidement, « C'est cela, soyez sage. » Lambert se tâta dès qu'il fut debout et montra du doigt l'ouverture béante dont la lune éclairait encore la moitié. « Mimi, dit-il, non sans une étrange bonne humeur, on a gratté assez longtemps à ta porte avant d'entrer. » « Voilà en effet près d'un mois que je vous entends, » répliqua André. « Eh, tu ne m'as pas dénoncé pour avoir du tabac et des petits verres, c'est mignon de ta part. As-tu passé l'inspection ?»« Qu'entendez-vous par là ?»« Bon, tu ne connais pas la langue, Bibi ?»« Je crois, » répondit André en souriant, « que je ne connais pas la vôtre. »« Tant pis pour toi. Alors tu ne sais pas l'histoire de « fera-t-il jour demain ?» André hésita, comme si cette phrase, évidemment cabalistique, éveillait en lui un souvenir, mais après réflexion, il répondit « Non ».« C'est drôle, » fit le condamné, avec défiance. « Tu m'as pourtant donné le tour agréablement et comme un jeune homme qui aurait fait de bonnes études. Si vous êtes un simple monsieur, est-ce que vous ne prendriez pas la clé des champs avec plaisir, citoyen ?»« Je compte m'évader, » repartit André sans hésiter. « Ah, et vos moyens vous le permettent ? Je n'ai pas encore songé aux moyens. » L'horloge du palais sonna un coup. « Minuit et demi, » grommela le cabaretier. « La porte est ouverte ou elle ne l'est pas. Nous avons le temps de bavarder 10 minutes. Vous êtes ici pour vol ?» André fit un signe d'affirmation. « Et innocent comme moi, c'est sûr. » « Pas comme vous, » repartit André avec calme. « Oh !» gronda Lambert, « on n'est donc pas un camarade, décidément !» Il s'interrompit, frappé par une idée soudaine, et claqua ses deux grosses mains l'une contre l'autre en disant tout bas, « Un franc, vous êtes l'agneau qui a payé pour l'habit noir dans l'affaire de la caisse de sûreté !»« L'habit noir ?» répéta André, stupéfait. Il avait peur de n'être pas bien éveillé. Il ne comprenait pas encore, et pourtant son esprit était comme ébloui par une lumière trop brusque. Sa folie était-elle raison? Son rêve serait-il réalité? Cet étrange sobriquet, l'habit noir, désignait-il vraiment le démon qui avait enseveli dans le deuil les joies de sa jeunesse? « Oui, oui, l'habit noir !» poursuivait Lambert en se parlant à lui-même. « Et si j'avais pris plus tôt de ces leçons, je ne serais pas ici, Mimi. Celui-là se moque des juges. Celui-là ou ceux-là, car Toulonnais l'amitié n'est encore qu'un écolier, et les maîtres sont à Paris. » André mit ses deux mains au-devant de ses yeux, comme si un éblouissement l'avait frappé. « Il s'appelle Toulonnais l'amitié, » balbutia-t-il en faisant un effort violent pour garder son calme. Le cabaretier se mit à rire. « il s'appelle, prononça-t-il par deux fois. Va-t'en voir à Pékin si j'y suis, Bibi. Quoi, ça fait toujours d'une pierre quatre ou cinq coups. Hein, j'ai bien ri à l'idée du brassard. Primo, d'abord, avec cet outil-là, il a eu les billets de banque. Secondo, il vous a mis l'affaire sur le dos. Tertio, il avait dit comme cela, « la petite marchande de ferraille est drôlette. » André étreignait son cœur à deux mains. La petite marchande de ferraille, c'était Julie. « N'empêche, poursuivit Lambert, j'ai été dénoncé, j'en suis sûr, et je connais assez leur truc pour savoir qu'ils balayent toujours la route derrière eux. Ils m'ont envoyé un passeport, c'est vrai, que le docteur m'a apporté dans sa poche sans le savoir. Ah, pour habiles, ils sont habiles. Et à propos, jeune homme, vous savez lire, vous. Dites-moi, sans vous commander, quelle tournure j'ai là-dessus et comment je m'appelle ?» Il ouvrit sa chemise de nuit et mit un passeport dans la main d'André. André lut, « Police générale, passeport à l'étranger, valable pour un an, au nom du roi, nous, préfet de police, etc., etc., Antoine Jean, marchand d'habits et colporteur, né à Paris le 14 juillet 1801. Hum, diable, fit Lambert, je n'ai que 24 ans là-dessus, c'est absurde. Taille 1m80 cm. « 5 pieds 5 pouces, dit Lambert, ils sont fous !» Il avait 3 bons pouces de moins que cela. Cheveux bruns, front haut, sourcils bruns. « Ah, ça, tonnerre de Brest !» s'écria le cabaretier. « Ils savent pourtant bien que je tire sur le roux. » Mais grand, peu gros plutôt. Bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint clair. Et les signes particuliers, néant. La robuste main du cabaretier caressa une balafre très apparente qu'il avait à la joue. André pensait, à la rigueur, ce passeport-là ferait mon affaire. Lambert le lui reprit d'un geste bourru et le remit dans son sein. Il était tout pensif. « Bien obligé, dit-il tout à coup. Les gueux se sont moqués de moi. Ils comptent sur le bourreau pour m'empêcher d'aller jamais leur dire grand merci. Minute, tout n'est pas encore réglé. » « Monsieur André Ménotte, s'interrompit-il en changeant de ton complètement, vous êtes un honnête homme et je suis un coquin. Je ne vous propose pas d'association, mais je sais tout ce que vous avez besoin de savoir, et si nous sommes une fois libres, je pourrai vous donner des armes contre ceux qui vous ont mis dans la peine. » Il y avait déjà du temps qu'André ne s'était entendu appeler « honnête homme ». De si bas que partit cette voix qui lui rendait justice, il fut ému jusqu'à sentir des larmes dans ses yeux. Sa main fit elle-même un mouvement pour chercher celle du cabaretier, mais une pensée vint à la traverse, et il répéta « Si nous sommes une fois libres !»« Ah, c'est là le hic, pas vrai, Mimi ?» reprit Lambert avec une gaieté soudaine et forcenée. « J'ai reculé tant que j'ai pu, mais il faut bien savoir à la fin. Répondez-moi, comme s'il s'agissait de votre salut. Avez-vous quelquefois sonné les barreaux de votre cage ?»« Jamais, répondit André, c'est depuis hier seulement que j'ai la volonté de fuir. » »« Et Louis a-t-il sonné les barreaux depuis que vous êtes ici ?» En termes de prison, sonner signifie éprouver les barreaux d'une cellule à l'aide d'un léger coup de marteau. Le fer intact rend une vibration pleine, mais si un trait de lime a attaqué le métal, le son se fêle et le geôlier est averti. Louis ne sonnait jamais les barreaux. Au dehors, la fenêtre était à 50 pieds du sol. « Il faudrait monter, dit le cabaretier. » D'un saut et sans effort, la main d'André saisit l'appui de la lucarne. « Ah, la jeunesse !» soupira Lambert. Puis il tendit à André un petit morceau de fer pointu, en ajoutant « Ça m'a servi à couper la pierre de taille. Toquez le barreau, tout doucement. » Il avait aux tempes des gouttes de sueur. André donna au premier barreau un coup transversal, un petit coup sec. Le cabaretier chancela sur ses jambes. André frappa l'un des barreaux scellés debout. Le cabaretier joignit ses mains qui tremblaient. « Sciez, tous deux !» prononça-t-il à voix basse. « C'est la case de l'habit noir !» Il se laissa tomber sur le petit pied du lit. André n'avait entendu que ce dernier mot. « L'habit noir a occupé cette cellule, en effet, dit-il. Est-ce l'homme qui a volé M. Bancel ?»« Non, c'est le père à tous. Celui qui tua la dame anglaise ici, à Caen !» répondit Lambert. « Ils sont plusieurs, ils sont beaucoup. Vous saurez tout cela et d'autres choses. André se souvenait de cet assassinat dont on parlait encore lors de son arrivée à Caen, et qu'il avait frappé surtout à cause de ce fait que l'assassin venait de Corse. Il y avait bien des mystères autour de l'enfance de Julie et de la jeunesse d'André, et Julie aurait pu expliquer l'émotion causée à André tout à l'heure par cette kabbalistique alliance de mots fera-t-il jour demain? Hé, Bibi, s'interrompit le cabaretier en cabriolant, j'ai donc de la chance une fois. Arrache-moi tout cela. Les barreaux ne tiennent pas, et j'ai une corde autour des reins, sous ma chemise. André secoua d'un effort puissant l'un des barreaux et l'ébranla sensiblement, mais sans le faire céder. Ah, je n'ai pas la force, dit-il, je suis trop gêné. Lambert déchirait déjà à toute volée un des draps du lit et le cordait. Attache-la au barreau, commanda-t-il, et descends. Foi d'homme, je vais t'emmener en Angleterre et tu sauras où trouver Toulonnais l'amitié, le gueux d'enfer. Hé, Bibi, ça fait du bien, l'idée de se venger. Vous êtes bien sûr que c'est lui? Demanda André, occupé à passer le drap dans les barreaux, lui qui s'est servi du brassard. Parbleu, répliqua le cabaretier. Vous pourrez le prouver? Parbleu! Il ajouta, comme André retombait, sa besogne finie. Il fallait être deux pour forcer la caisse. Une fine serrure. Oh, j'ai travaillé autant que lui. Vous? S'écria André en reculant. Un instant, ils restèrent en face l'un de l'autre. Tirons dur, dit Lambert, on s'expliquera après. Le drap roulé en câble était engagé dans la partie supérieure des barreaux. Le cabaretier saisit les deux bouts pendants avec un frémissement d'espoir. Il les tordit pour leur donner plus de force et, confiant en sa vigueur, il hala un coup tout seul. Le jeune ciseleur restait comme absorbé. Ah, murmurait-il sans savoir qu'il parlait, vous en étiez. Les barreaux cédèrent sensiblement sous la puissante traction opérée par Lambert, mais le grillage entier, après avoir plié, revint à son point de départ. Il y en a au moins un que la baignoire n'a pas touché, grommela Lambert. Allons, Bibi, à nous deux là-dedans. Je veux savoir le nom de votre complice, déclara André. Le roi dit, nous voulons, et nous serons mieux pour causer de l'autre côté du mur. Appelez-vous ça un complice, monsieur Ménotte, un homme qui fait une affaire de 400 000 francs et qui jette à son aide un os de 1 000 écus? Ah, je pourrais bien vous amuser en lui donnant le premier nom venu, pas vrai, et sans mentir encore, car en fait de nom, il y en a à choisir. Mais c'est long ce que j'ai à vous conter. Le nom d'une anguille ne sert à rien. C'est la manière de la prendre qu'il faut avoir. À nous deux, Bibi, et comme pour du pain. À son tour, André prit le drap à deux mains. Il avait confiance. D'ailleurs, l'espoir de la liberté prochaine s'emparait violemment de son esprit. Tiens bon, ordonna le cabaretier. Vous n'avez jamais viré au cabestan, monsieur Ménotte, en mesure, sans vous commander. Y es-tu? Hé là, ho! Hé là, ho! Hé là, ho!